Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 28 juillet. Taux d'inflation en hausse, croissance réduite. Le gouvernement Albanese s'apprête à présenter son budget et fait déjà face aux critiques de l'opposition. Les visas de protection pour les Ukrainiens ayant fui la guerre et s'étant réfugiés en Australie seront étendus aussi longtemps que nécessaire, déclaration du ministre de l'Immigration. Ce rapport très pessimiste de l'ONU sur la lutte contre le sida. 650 000 personnes sont décédées du VIH l'année dernière et le nombre d'infections augmente de nouveau dans certaines régions, l'Europe de l'Est et l'Asie notamment. Et en sport, les Bleus éliminés de l'Euro 2022 après leur défaite face à l'Allemagne et ce, aux portes de la finale. Tous les détails dans le journal des sports. Baptême du feu pour le gouvernement albanais. Aujourd'hui, le ministre des Finances s'apprête à présenter son budget. Jim Chalmers assure vouloir être aussi transparent que possible et dire la vérité sur les perspectives économiques bien plus sombres que prévues. La croissance estimée a été réduite d'un demi-point et il faut s'attendre à ce que le PIB n'ait augmenté que de 3,75% en 2021-2022 contre les 4,25% estimés lors de la campagne électorale. On écoute le trésorier australien.
When you've got rising interest rates, when you've got dramatically slowing global growth, that will obviously have implications for our economy here at home, and that will flow through to implications for our budget as well. There's no use pretending otherwise. I think for too long, Australians have had governments which have tiptoed around the bad news and tried to sugarcoat things, and that's not our style. What we would prefer to do is to be upfront and honest, paint a realistic picture of the economy that we've inherited from our predecessors, and outline the plan to deal with it.
Des mesures insuffisantes selon le porte-parole des finances de l'opposition, Angus Taylor.
Around the world, we've seen this building real momentum, and we need to see a response from Labor. I mean, instead, we're getting a picture. We don't need a picture from the Treasurer. We need a plan.
L'Australie qui fait également face à son taux d'inflation le plus élevé depuis les années 2000, 6,1%. Et les prévisions futures évoquent même un pic à 7,75%. On en parle dans la chronique économie un petit peu plus tard dans l'émission. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la Banque centrale américaine frappe fort pour tenter de sortir l'économie du pays de l'inflation qui atteint 9,1% sur un an. La Fed a relevé pour la quatrième fois consécutive ses taux d'intérêt et son patron, Jerome Powell, affirme qu'il n'hésitera pas à continuer dans cette voie.
Avec mes collègues, nous sommes déterminés à faire baisser l'inflation et nous mettons tout en œuvre pour cela. Nous avons les outils dont nous avons besoin et la détermination nécessaire pour restaurer la stabilité des prix au nom des familles et des entreprises américaines. Le pays et l'économie ont traversé une période difficile et ont prouvé leur résilience pendant ces deux dernières années et demie. Il est essentiel que nous atteignions notre objectif de 2% d'inflation si nous voulons réunir les conditions pour un marché du travail stable qui soit bénéfique pour tous. Du point de vue de notre mission de stabilisation des prix, la situation actuelle est claire. Le marché du travail est très tendu et l'inflation est beaucoup trop élevée. Pour changer cela, le comité monétaire de la Fed relève ses taux directeurs de 3/4 de point.
Retour en Australie et le Parlement va étudier un projet de loi pour offrir 10 jours de congés payés supplémentaires en cas de violence domestique. Ce congé exceptionnel serait aussi applicable aux personnes travaillant comme casual, ces employés qui ne sont pas éligibles aux arrêts maladie en temps normal. Les salariés absents seraient payés au taux en vigueur qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ces jours précis, c'est-à-dire avec les primes et les bonus des week-ends, jours fériés ou encore horaires décalés. Un projet de loi justifié par le ministre des Relations professionnelles qui explique que bien souvent, le problème est de fuir ces violences. On écoute Tony Burke.
More than 68% of people experiencing family and domestic violence are in paid work. However, many can't leave violent situations without risking joblessness, financial stress, homelessness and poverty, leaving workers having to choose between their safety and their livelihood.
Autre proposition du gouvernement albanais, celle de permettre aux réfugiés ukrainiens de travailler et d'étudier en Australie aussi longtemps qu'ils en auront besoin, je cite, sous leur visa de protection. Ce plan présenté par le ministre travailliste de l'immigration, Andrew Gill, intervient quelques jours seulement avant la fin du programme de visa humanitaire temporaire mis en place par le gouvernement Morrison. Et la guerre en Ukraine, justement, eh bien Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, va s'entretenir dans les prochains jours avec son homologue russe, une première depuis le début de l'invasion en février dernier. On apprend que cet appel téléphonique ne sera pas une négociation au sujet de l'Ukraine, mais une discussion autour des Américains détenus en Russie et autour des exportations de céréales. Dans le même temps, les combats prennent une toute autre forme 5 mois après le début de l'offensive, notamment dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Depuis quelques jours, les forces de Kiev ont engagé une contre-offensive. Elles viennent notamment de bombarder un équipement clé en le pont Antonovski, seul point de ravitaillement reliant la région de Kherson à la rive sud du Dniepr. Sur place, la correspondance de Stéphane Siouan pour Radio France Internationale.
Dans la nuit de mardi à mercredi, le pont Antonovski, long de 1300 mètres, a été frappé pour la troisième fois depuis le 19 juillet par des missiles de longue portée de type HIMARS, ces missiles multiples fournis par les États-Unis qui permettent à l'artillerie ukrainienne d'effectuer des frappes dans la profondeur de façon très précise, parfois à plus de 80 km de distance. La chaussée de l'ouvrage, criblée d'impacts, a été rendue impraticable à l'endroit des frappes et ce mercredi, les autorités russes d'occupation à Kherson l'ont fermée jusqu'à nouvel ordre. Le pont Antonovski est un des seuls points de franchissement sur le Dniepr avec le barrage d'une centrale électrique à 55 km de là. Or, on estime à 30 000 le nombre de soldats russes qui se battent à l'ouest du Dniepr et si les ponts étaient partiellement détruits ou inutilisables, l'armée russe ne pourrait envoyer des renforts vers l'avant ni organiser un retrait en arrière du fleuve en cas d'offensive ukrainienne. On voit ainsi se dessiner la stratégie de Kiev pour les semaines à venir, bloquer les forces russes à l'ouest du Dniepr et les forcer à se rendre.
Et la Russie promet des mesures de rétorsion après la confirmation par la justice européenne de la suspension des chaînes Russia Today et Sputnik. Déclaration du porte-parole du Kremlin qui dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Il menace en retour de faire pression contre les médias occidentaux en Russie. Daniel Valo.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les sites de plusieurs médias occidentaux ont été bloqués par la Russie et le bureau moscovite de la radio-télévision canadienne a été fermé. Mais d'autres mesures similaires devraient suivre, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui se dit outré par la décision de la justice européenne de confirmer la suspension de la chaîne de télévision RT.
C'est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse et nous le déplorons. Nous allons prendre, bien entendu, des mesures similaires contre les médias occidentaux qui sont dans notre pays. Nous ne les laisserons pas travailler et il n'y aura aucune souplesse à attendre de notre part.
Accusés d'être des instruments de désinformation du Kremlin, les médias Sputnik et RT ont été interdits de diffusion dans toute l'Union européenne depuis le 2 mars dernier. Cette décision est justifiée aux yeux de la justice européenne par le besoin d'éviter la propagande en faveur de l'agression militaire de l'Ukraine. En France, la suspension de RT a pris une dimension particulière car le pays était le dernier en Europe à héberger sur son territoire une filiale de RT. La chaîne de télévision russe dont la suspension a été confirmée par la justice européenne a fait savoir qu'elle ferait appel de la décision.
Toujours dans l'actualité internationale, la crise politique se poursuit en Irak 10 mois après les dernières élections législatives. Des partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont pris d'assaut le Parlement. Les manifestants s'étaient rassemblés à Bagdad pour dénoncer la candidature de Mohamed Shia al-Soudani au poste de Premier ministre, candidat présenté par le camp politique adverse. La correspondance de Lucille Wasserman, RFI.
La nuit tombe sur Bagdad et dans le quartier politique ultra sécurisé de la capitale, des centaines de manifestants entrent de force dans le Parlement irakien. Des partisans de Moqtada Sadr qui occupent désormais le bâtiment en brandissant des photos de leur leader. Ils crient leur colère contre Mohamed Shia al-Soudani, le candidat au poste de Premier ministre soutenu par le camp politique adverse.
On s'est introduit dans le Parlement car on ne veut pas de la corruption et on ne veut pas de Mohamed al-Soudani. C'est un corrompu. Tous les ministères dans lesquels il a travaillé, il y avait de la corruption.
Une manifestation appelée par Moqtada Sadr, le grand gagnant des élections, qui a fait démissionner tous ses députés le mois dernier, après avoir échoué à former un gouvernement. Depuis, le clair chiite multiplie les démonstrations de force pour rappeler à ses adversaires qu'il a la possibilité de déstabiliser le pays s'il le veut. Au centre du salon, habituellement réservé aux députés, Mohamed, 52 ans, dénonce le système politique construit après 2003.
Ces politiciens ont détruit l'Irak, ils ont détruit notre civilisation. On n'a rien, pas d'éducation, pas de santé, pas de service. Ça fait 20 ans et ça suffit. Ils doivent tous partir.
Après quelques heures sur place, ces manifestants quittent finalement l'enceinte du Parlement sans grande violence. Mais pour combien de temps, alors que dans le camp adverse, certains appellent déjà à l'escalade?
On le disait en titre, le sida continue de tuer. 650 000 personnes sont décédées en 2021. Un chiffre en baisse par rapport à 2020, mais toujours bien trop élevé par rapport aux objectifs, selon le rapport annuel de l'Organisation des Nations Unies Sida. Un rapport très pessimiste quant à la lutte contre le VIH. 1 500 000 nouvelles infections ont été recensées. Un chiffre qui suscite l'inquiétude. On écoute Fodé Simaga. Il est le directeur du département Sciences, Systèmes et Services pour tous à l'ONU Sida.
On est sur une pente plutôt négative que positive. En plus, on voit carrément les nouvelles infections réaugmenter, ce qui ne s'était pas vu depuis 10 ans dans certaines régions, en Europe de l'Est, en Asie, en Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique latine, dans certains pays d'Afrique subsaharienne. On voit la mortalité qui stagne, 650 000 nouveaux morts cette année, ça fait quand même un mort toutes les 2 minutes. On voit des populations clés qui continuent à être de plus en plus affectées, stigmatisées, marginalisées, donc ne pas avoir accès aux services. Les adolescentes et jeunes filles en Afrique subsaharienne, c'est une infection toutes les 2 minutes. Donc oui, on est un petit peu inquiet, effectivement, de voir que, bien qu'on ait 40 ans d'expérience, qu'on ait des outils diagnostiques, traitements et de tests qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à endiguer cette pandémie.
Sans transition aucune, les températures de ce jeudi après-midi, Perth 21 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 13, Hobart 12 degrés, Canberra comptait 15 degrés, il fera 19 à Sydney, 20 à Brisbane, 25 à Cairns et le plus chaud comme d'habitude, c'est pour Darwin, 31 degrés. Le rappel des titres. Le gouvernement albanais présente aujourd'hui son budget. Au menu, taux d'inflation en hausse, croissance réduite. Les visas de protection pour les Ukrainiens ayant fui la guerre et s'étant réfugiés en Australie seront étendus aussi longtemps que nécessaire. Et enfin, ce rapport très pessimiste de l'ONU sur la lutte contre le sida. 650 000 personnes sont décédées du VIH l'année dernière. Le nombre d'infections augmente de nouveau.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.